à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode du CKB Show. On est sur l'épisode 21 mois qu'on travaille d'arrache-pied avec Thomas pour vous présenter les nouveautés des Chromebooks, de Chrome OS et de tout ce qui gravite autour de l'univers de Google. Et comme d'habitude, ben, je vous l'ai annoncé direct dans l'intro, je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Bonjour Nico, ça va très très bien et toi ?
Eh bien écoute, je suis en pleine forme, on enregistre un dimanche, alors pour une fois je suis hyper réveillé, hyper en forme, j'ai la patate quoi, c'est clair. Toi un peu moins, t'es un peu plus...
Bah ouais, nous il est...
7h du matin, c'est ça ?
Ouais c'est ça, nous il est tôt le matin ici, tu vois le soleil est en train de se lever. Il fait gris, j'ai découvert un truc... Ouais, j'ai découvert un truc que j'avais presque oublié, ça s'appelle la pluie, je sais pas si tu connais.
Ah merde,
et,
ouais j'en ai entendu parler nous.
Ouais.
Voilà. Dans ma compris, c'est, ça se transforme en neige, moi.
Ah, ok. Bah, nous, pas encore, mais tu vois, la pluie, c'est un truc que j'avais presque oublié que ça existait. Il va falloir que j'aille acheter des bottes en caoutchouc, là, demain. Mais non, il pleut un peu ici, mais à part ça, tout va bien. Je continue à découvrir mon nouvel environnement et à m'installer. Donc voilà, mais je suis ravi de me lever de bon matin ce dimanche matin et d'enregistrer un épisode avec toi.
Eh ben, je vais t'envoyer un peu de soleil de chez nous et puis on va faire de même à tous nos poditeurs. Je vais jamais y arriver avec ce terme-là parce que chez moi, il fait super beau. Il y a un beau soleil. Il fait 25 degrés à l'ombre et nous sommes sous les cocotiers. Enfin, moi, c'est des sapins, mais j'appelle ça des cocotiers.
Les cocotiers du Jura.
Les cocotiers. Ah, du doux.
Du doux. Ah, excuse-moi.
Pas le Jura.
Excuse-moi. Du doux.
Enfin, bref. Ben. Puisqu'on est en train de parler de ville, de territoire, on peut aller directement sans
puisqu'on
intro.
Parle de sapin, je pense que c'est l'occasion de parler de Chromebook. C'était ça ce que tu voulais dire, Nico ?
Non, je voulais parler de Berlin.
Ah, de Berlin ! Oh, excuse-moi, je t'ai complètement raté ton...
Berlin, Allemagne, excuse-moi. Tout ça, on n'est pas loin, tu vois. Non, on va parler de Chromebook un petit peu, pas beaucoup, parce que ce n'est pas le but de l'émission non plus. Hein. mais on va parler... Non, on va parler de Berlin, tu connais, c'est une petite ville, un petit truc perdu dans l'Est, en centre de l'Europe, à peu près.
Ouais, j'ai entendu parler.
Ouais. Il se passe pas grand chose, mais il se passe une chose, en tout cas. Tous les ans, il y a un truc qui s'appelle l'IFA. Ça te parle un peu ou pas du tout ?
Ça me parle bien. Et d'ailleurs, figure-toi que je suis en train de rechercher la définition de l'acronyme. Donc, IFA, pour ceux qui s'y intéressent, qui font l'allemand, ça veut dire Internationale Funk. Funkausstellung. je sais pas pourquoi, je me suis dit ça. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée de dire ce que ça voulait dire. Et après, en cours de route, je me suis dit, ah merde, putain, c'est de l'allemand, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Mais en gros, l'IFA à l'origine, c'était la grande foire internationale de la diffusion radio, comme je viens de vous le dire en allemand. Et, et donc, c'est un salon qui est très ancien, qui date de 1924. Donc voilà. Et, ou en tout cas, l'association date de 1924, le salon date des années 50. Mais bon, aujourd'hui, autant vous dire que les postes radio, c'est plus forcément ce qui fait l'attraction de l'IFA. Et c'est en gros l'équivalent d'un CIS européen, en fait. Je pense qu'on peut le dire comme ça, Nico.
Ouais, c'est complètement ça. Après, c'est plus orienté grand public que certains salons, mais ouais, comme le CES, hein, clairement. Donc ouais, moi, j'ai l'avantage de pouvoir y aller, si je m'étais rappelé que c'était à cette date-là, parce que c'est pas trop trop loin. Mais je l'avais un peu zappé, en fait, comme je te disais pendant la présentation. J'avais omis de mettre l'événement dans mon agenda. C'est un truc de fou. En même temps, il se passe pas grand-chose pour moi, généralement, enfin sur les Chromebooks là-bas ou sur Chrome OS. Donc c'est vrai que j'avais pas tendance à regarder. Mais
Jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça, jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'en général, bon, les Chromebooks, on vous parle de Chromebooks tous les mois. Et c'est vrai que bah, il se passe quand même beaucoup plus de choses de mon côté du monde que du vôtre. Ou du tien, mais c'est vrai que et le l'IFA en général c'était beaucoup il y avait bah, c'est un peu le salon de la télévision et du téléphone portable. Samsung a plus qu'un stand en général. Samsung a carrément une halle là-bas, donc je sais pas si c'était le cas cette année. Et puis il y a aussi des machines à laver, etc. Donc c'est vraiment le salon de l'électronique grand public. Et c'est vrai que les Chromebooks étaient pas forcément toujours très très bien représenté, mais donc oui, comme on est en train de vous le dire, ça a changé, et cette année, on a eu beaucoup d'annonces de Chromebook.
C'est clair, on en a eu énormément, hein. On en a eu directement à l'intérieur de l'IFA, on a eu trois constructeurs qui ont présenté leur Chromebook, et étonnamment, c'est pas forcément ceux auxquels j'aurais pensé moi. Je sais pas, toi, en regardant les notes de l'émission, je vais pas te dire, est-ce que tu sais lesquels, t'as les notes devant les yeux, donc c'est
Ouais,
bon,
on
tout le monde
va.
sait maintenant que tu triches. Mais moi, quand tu vois ça, c'est, moi, j'étais assez étonné des constructeurs qu'on a vus, en fait.
Voilà, ouais, on va vous les détailler. Donc, on commence déjà avec le Dell 14. Donc, c'est vrai que Dell, typiquement, donc, qui est le géant. Donc, Dell, c'est une société américaine, comme HP, qui est les deux gros constructeurs américains d'informatique grand public. Et donc, Dell, a priori, le marché européen, c'est pas forcément un marché auquel ils pensent en priorité. Et les Chromebooks, c'est pas non plus un sujet sur lequel ils sont particulièrement illustrés au cours des dernières années. Mais donc, là, ils annoncent le Dell 14. Donc, raconte-nous
14,
un
ouais.
peu ce qu'il en est.
Bah,
Très
Dell
très bon nom
14,
d'ailleurs,
du coup.
14.
Enfin, moi j'ai vu les vidéos, je ne l'ai pas vu en vrai, mais il me paraît vraiment sympathique. C'est du enfin, on va être dans le haut de gamme hein, sur un produit comme ça. Il va rivaliser largement avec les Samsung Pro Plus, voire les Pixelbook de l'année dernière, hein, du coup. On est sur un produit donc 14 pouces, hein, comme le nom l'indique, hein, évidemment. Il est défini en 1920 par 1080, donc c'est quoi? C'est du HD ou Full HD, ça, je ne sais jamais. Donc c'est un bel affichage en soi. Et il sera proposé en deux versions, en 64 Go et 128 Go de stockage. Et puis, bah, comme le reste, maintenant, enfin, je vais pas détailler tout parce que, en fait, c'est sensiblement pareil sur tous les produits. Simplement, processeur, c'est un Intel Core 3, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une puce graphique Intel UHD en graphique 620, je crois, ouais, 620. Et puis, bah, le reste, port USB-C, port USB-A, lecteur carte mémoire et un poids, un petit poil lourd, hein, d'ailleurs, presque 2 kilos, 1,81 kilogramme. Donc c'est un produit sympa, donc c'est un deux en un, tu sais, comme tous les nouveaux Chromebooks finalement, hein, il est monté sur une charnière à 360 degrés, et puis tu le fais pivoter dans tous les sens. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder la vidéo que j'ai postée sur My Chromebook, il y a le lien dans les notes de l'émission, vous verrez, la personne qui fait la démonstration est assez sympa. Moi j'ai bien aimé la façon dont elle a présenté le produit, la personne la fera sûrement mieux que moi, en même temps je crois qu'elle était payée pour ça.
Ok, bon, on
Je
va
crois.
regarder ça. Et ouais, en termes de spec, on a du 4 Go de RAM, donc c'est un peu le seul point noir, on va dire. 4 Go, peut-être que pour un appareil comme ça, 8 Go ça aurait pu être mieux. Mais
Ouais, c'est ça, ouais.
ou
C'est
6
dommage
même d'ailleurs.
qu'ils aient que ça.
Ouais.
Et je crois qu'il n'y a qu'une version, hein. Il n'y a que 4 Go. J'ai pas vu
A
d'autres versions
priori, ouais.
avec toi, doublé 8 Go, un truc comme ça en termes de prix. La seule chose qui change entre les versions, ça va être la capacité mémoire, en fait.
Ouais, c'est ça. En gros, 32 et
Et pareil.
64, non?
64 et 128.
Ah, 64 et 128, d'accord. Et par contre, le prix annoncé, c'est 600 $ pour la version à 64, c'est ça?
600 $ pour la version 64 Go. Moi, alors, c'est un beau produit, hein. Par contre, j'ai des petits bémols, comme tu le dis, les 4 Go, c'est dommage. Et puis la mémoire, c'est pas de la SSD, c'est de la eMMC. J'y connaissais pas grand-chose. Bon, j'ai pas beaucoup amélioré mes connaissances là-dessus. Mais il paraîtrait, tu vas peut-être me contredire, hein, et si tu le fais, je coupe ton micro, que la eMMC serait moins rapide que la SSD.
D'accord, c'est
La
moi qui
mémoire
enregistre donc
SSD.
tu peux pas me couper le micro, mais j'en sais rien en fait, donc je te fais
Ah, ok,
confiance.
donc j'ai raison alors. Bah, Pératrix, c'est ça. Donc du coup, bah, c'est dommage d'avoir mis ça. Après, je sais pas trop. J'ai pas trop. Je crois que c'est plus facile aussi à changer le SSD qu'un eMMC. C'est pas. Il y en a un, c'est soudé, l'autre n'est pas soudé ou un truc comme ça.
D'accord.
Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste un très très bel appareil. Pour la petite histoire marrante, vous allez pas rire, mais moi j'ai beaucoup ri parce que je me suis dit ils ont fait exprès pour moi. Il sort le 23 octobre aux États-Unis. Tu sais ce qui se passe le 23 octobre en France?
C'est ton anniversaire.
Et c'est ça, et c'est pour moi qu'ils le sortent aux États-Unis uniquement le 23 octobre. Donc peut-être qu'ils me proposeront un aller-retour pour aller le chercher. Je ne sais pas
Ah bah
comment ils vont
ça
s'arranger.
me paraît
C'est
très
une surprise
probable.
à grande échelle.
Ouais, il y
Je
a
sais pas. Les
grande
gens.
chance pour que ça arrive, ouais.
Voilà. Donc pour info, c'est le 23 octobre. Hein, donc les Tipeee, vous pouvez y aller. Hein, En plus, il y aura une nouvelle présentation d'un nouvel Pixelbook. Alors du coup, peut-être que j'aurai besoin de beaucoup beaucoup de Tipeee si vous
Beaucoup de
voulez dénicher
Tipeee.
dessus.
Voilà.
Voilà. Bon, voilà.
Et du coup, pas d'annonce pour une sortie française pour le moment?
Non, mais a priori, ils ont cherché une homologation européenne.
D'accord.
Donc, il y aurait de fortes chances qu'ils sortent en France. Et en même temps, ils arrivent en France, enfin, les Chromebooks, pour ceux qui lisent My Chromebook régulièrement, ils arrivent vraiment, vraiment en force en France avec, comme je te le disais pendant la présentation, la Fnac et Darty qui, depuis l'accord signé avec Google en début d'année, mettent vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il y a des affiches sur leur vitrine de Chromebook, dans des escalators, il y a des Chromebooks dessinés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça. Donc, il y a de fortes chances que les constructeurs s'intéressent un petit peu à la France parce que forcément, en parlant, on arrive à en vendre. C'est sûr que si on ne dit pas que ça existe, personne n'en achète.
Ouais, c'est ça. En gros, le marché français sur les Chromebooks est en train de reprendre un petit peu la maturité qu'il avait il y a quelques années et qu'il a perdu là au cours des 2 ou 3 dernières années. Donc ce serait assez logique si jamais, comme tu dis, ils arrivent à avoir une homologation pour le marché européen qu'ils lancent en France, quoi. Parce que la France est quand même un des plus gros marchés européens, donc ce serait assez logique. Ok, bon bah écoute, affaire à suivre. Donc ça c'était pour Dell. Alors le second fabricant qui a annoncé quelque chose autour de l'IFA, c'est Acer. Et donc
Ah, bah évidemment.
là, voilà. Donc Acer, pour le coup, eux, ça nous surprend pas tant que ça, c'est ça? Parce que eux, ils ont jamais lâché l'affaire du côté des Chromebooks.
Ouais, ils ne sont pas premiers pour rien. Ils sont là depuis le début. Ils sont partenaires de Google depuis les débuts de Chrome OS. Ils y croient. En même temps, ça a sauvé leur marché, hein, quand même. Acer, ils n'étaient pas forcément en bonne position à un moment donné de leur vie. Et Acer a vraiment est un levier énorme de business pour eux. C'est ceux qui en ont plus, hein. Donc ils sont premiers parce qu'ils en ont plus. Ça me rappelle un peu Samsung dans la téléphonie. Ils sont premiers parce qu'ils en vendent des milliards de produits différents. Bah, c'est un peu ce que fait Acer du côté des Chromebooks. Et là, bah, en fait, c'est pas une grosse nouveauté qu'ils nous annoncent là, hein. C'est juste une amélioration de leur Chromebook 14 pouces. Tu l'as sûrement déjà vu passer en vidéo. Peut-être que tu l'as eu en main, je me souviens plus. Non, je crois pas.
Non.
Mais c'est une évolution de leur produit à forte valeur, hein. On est sur un produit toujours aussi gros en Full HD en 1900. Ah bah tiens, c'est du Full HD 1920 par 1080. Toujours sur du châssis aluminium. Ça y est, ils commencent à avoir des produits enfin, très quali. On oublie le plastique, hein, sur les Chromebooks de plus en plus. Alors, ça va sûrement se détacher. On va voir deux univers, deux chemins différents parce qu'il y a encore des constructeurs qui sont encore pas très connus. Je vais le citer parce que ils existent. S'appellent CTL, qui vend beaucoup en Espagne des Chromebooks, tout en plastique. Donc évidemment, c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher du tout. Et puis, on a les autres constructeurs qui commencent à se positionner sur du milieu haut de gamme. Et Acer fait partie de ceux-là avec des produits vraiment quali. Donc, ce qu'ils ont, alors les choses qui ont changé un petit peu par rapport aux autres produits, donc la finition du produit, je dirais qu'à ça y est, ils maîtrisent bien la carcasse du produit. Par contre, ils ont remplacé le trackpad. Non, si c'est le trackpad, la souris, ouais, c'est ça, un trackpad. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ce que je regrette un peu sur les Chromebooks, quand tu fais un double clic ou un double tap sur le trackpad, ça fait un petit bruit de plastique très très moche, vraiment bas de gamme. Et ben là, ils ont mis un Gorilla Glass dessus, donc le trackpad n'est plus en plastique non plus. Donc ça va être quelque chose d'un peu plus sympathique à utiliser. Et un truc que j'attends avec impatience, un clavier rétroéclairé.
Ouais, donc c'est
Enfin.
vraiment en gros toutes les petites options qui font la différence entre du haut de gamme et du bas de gamme. Là,
C'est ça.
on est vraiment en présence d'un matériel haut de gamme, quoi. C'est
Voilà,
l'intérieur
la
cuir
fiche.
avec le tableau de bord en ronce de noyer, quoi. Pour
T'étais pas en train de niquer une voiture morte?
continuer dans mes analogies automobiles.
Quiconque est en train de. Non, t'as déjà acheté un, c'est fait, hein.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. non, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment un appareil de bonne qualité, ouais.
Ouais. Et malgré tout ça, on pourrait se dire, plus il y a de choses dedans, toi, un clavier rétroéclairé, un écran Full HD, IPS, on pourrait se dire que le produit va pas tenir en batterie, parce qu'à un moment, plus tu rajoutes de choses qui consomment de l'énergie, plus il consomme de l'énergie. Là, en l'occurrence, ils le vendent quand même enfin, ils l'ont présenté avec une autonomie de 12 heures. Donc, on reste complètement dans l'univers des Chromebooks avec cette autonomie assez record et malgré des fonctionnalités supplémentaires rajoutées. Donc, c'est un très très beau produit. Alors, il s'appelle le Chromebook 514, celui-ci. On fait simple.
Ouais,
Qui sort.
en termes de nom, c'est pas toujours ça, mais bon. Au moins,
Ouais.
c'est facile à chercher, soit, j'imagine, dans les catalogues produits.
Cinquième de 4, en 14 pouces?
Ouais. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Bon.
Oh, je sais pas.
C'est efficace, simple et efficace.
C'est...
Alors, par contre, une ligne de produits qui a un nom un peu plus original et qui
Attends,
commence un
attends,
peu.
attends.
Ah,
Attends, pas fini.
je vais trop vite.
Celui-ci, on est sûr qu'il sort en France.
Ah, ok, d'accord. Il a déjà un
Et il
prix
y a
en euros 400 autour.
399, ouais, 400.
C'est ça.
400 euros pour le premier prix.
D'accord.
Après, il y aura des évolutions. Alors, écran tactile ou pas, attention, il y a une version sans écran tactile et une autre avec écran tactile. Donc, le prix là, c'est sans l'écran tactile.
Et celui-ci, est-ce qu'il est 2 en 1, comme tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce qu'il a la charnière qui s'ouvre à 360?
Non, je crois pas en fait.
On dirait que non, hein. Ouais. Ok. Donc il continue
Tu
à
me poses
sortir.
une. Non,
Donc il continue à sortir des il continue à sortir des appareils qui sont pas à la fois tablette et laptop, quoi.
bah, en fait, il y a une version, y a une version non tactile, donc ce qui serait compréhensible, il n'y a pas de raison de l'avoir avec une charnière à 360 degrés, tu vois. Parce
D'accord.
que
Ouais.
après, quel est l'intérêt de passer un écran non tactile en tablette?
Ouais.
Parce que tu peux rien faire dessus.
Bien sûr. Ok.
Enfin. Mais bon, ça reste un beau produit, hein.
Ouais. Cool. Donc là, ça y est, c'est bon, on a fini. Je peux parler du Lenovo.
Vas-y.
Et donc, un autre appareil qui a, pour le coup, enfin, où la ligne de produit qui a un nom original, on parle des Yogabook de Lenovo.
Ouais,
Et donc
c'est
là, donc
ça.
là, c'était dans le cadre de l'IFA. On a probablement ce qui est. Alors, on attend toujours un nouveau Pixelbook. On va vous en parler tout à l'heure, mais là, je pense qu'on a l'appareil le plus, comment dire, le plus excitant. Hein, je sais pas, j'aimerais bien trouver le plus enthousiasmant des Chromebooks dans les semaines ou les mois à venir. Et donc, c'est un Chromebook, Lenovo Yogabook. Je suis en train de chercher le nom, je ne le retrouve pas.
Je suis même pas sûr qu'il en ait un.
C'est le grand.
Le
C'est
grand.
le
Le
grand
Lenovo
Yogabook.
Yogabook, je crois. Parce qu'il ne doit pas y en avoir d'autres, si. C'est ça, grand?
C'est pas le 3,
Le
le
plus grand?
C333, c'est pas ça, non? C330 plutôt?
Non, c'est pas le C330.
C'est pas C330? C'est vrai, il a pas de nom. Ce
Si,
serait
le
quand même.
S3... Non, il n'a pas de nom, il doit s'appeler Yogabook.
Le
En même temps, il n'y en a
Yogabook.
pas d'autres de Chromebook Yoga.
Ouais, t'as raison.
Après, ça s'appellera Lenovo Chromebook Yogabook 2.
Ouais,
Ça
bon.
commence à faire long.
Ouais. Mais il y en avait déjà eu un, non? Ah non, ils l'avaient annoncé et finalement ils l'avaient pas sorti, c'est ça? Ils avaient fait une version de leur premier Yogabook sans le sortir.
C'est ça. Tu sais, avec le, tu sais, c'était celui où il y avait clavier en e-ink, là, le clavier où il n'y a pas de clavier.
Ouais, c'est ça. L'espèce de surface toute plate. Ok, bon bah écoute, donc voilà, donc le Yogabook Chromebook. Donc là, pour le coup, donc comme je disais, c'est vraiment de la très très haute qualité. Celui-ci, j'ai vu quelques vidéos qu'il présentait, ça fait vraiment envie. Enfin, je suis vraiment curieux de jouer un peu avec. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, c'est du 14 pouces, c'est ça, ou du 15 pouces?
Ouais, on va dire du 15 pouces, au 15,6 pouces même.
Ouais, c'est ça. Donc
Ah,
très.
c'est très
Vas-y. Ouais,
grand.
voilà, c'est ça, très très grand. En termes de poids, il est très léger aussi, puisqu'il fait un peu moins de 2 kilos. Euh,
Donc
ce
le
qui
même poids que le premier qu'on a vu de chez Dell quand même,
qui faisait que
pour
qui faisait
donner
que euh, 14 pouces, c'est ça?
14 pouces, ouais.
Ouais. Donc voilà, donc c'est un grand, vraiment très très grand. Et en plus comment est-ce qu'on appelle ça? Les chanfreins, non, c'est pas les chanfreins. C'est quoi le tour de l'écran, comment ça s'appelle? J'en perds mon français. Bref, enfin, la dalle prend vraiment une grande grande surface.
Ah ouais, il est quasi borderless, hein.
Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas de.
Quasiment sans bordure, hein.
Voilà.
C'est assez bluffant, hein. Bah, dans la vidéo, c'est vraiment sympa. Enfin, ça fait un beau produit. Ils ont vraiment Lenovo. Ils avaient abandonné le marché un petit peu du Chromebook. Pourtant, moi, j'en ai encore un qui traîne là. C'était des beaux produits en plastique au début, mais là, avec celui-ci, c'est le top du top, hein. Pour la petite histoire, processeur 8e génération. Déjà, Intel Core, hein. 5 i5, je crois. Donc, on est déjà sur quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que je dis toutes les refs? Non, c'est chiant. Moi, j'aime pas quand on parle de tout ça
Non,
après, dans un
on n'est pas
podcast.
obligé de tout dire,
Allons
mais
dire les refs, mais l'écran en 15,6 pouces. Alors là, c'est là que c'est énorme. C'est du 4K. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc, ça peut monter jusqu'à un écran en 4K.
Alors en fait,
ça
veut dire il y a deux écrans, si j'ai bien vu. C'est ça.
Il y a deux versions.
Ouais, il y a ça. Il y a une version HD et une version 4K.
Donc, une version 4K. C'est juste énorme. 4K, quoi, sur. Je sais même pas à quoi ça peut me servir. Il y a rien qui est diffusé en 4K en France, mais, ou pas loin. Mais c'est juste bluffant pour la, juste les specs, en fait. Sur le papier, ça fait juste. Du bien. Pour accompagner tout ça, ben c'est propulsé par 8 Go de RAM quand même. Hein, on en parlait tout à l'heure, on disait que le Dell était un petit peu timide sur la RAM. Ben, chez Lenovo, ils ne le sont pas, eux. Hein.
Ouais.
Et puis, une version 64 et 128 Go.
Voilà.
Donc, on est sur vraiment un très, très beau produit. Hein. Tiens, je crois que je viens de faire... Mais il fait 56 heures et 10 heures. C'est bizarre ce que j'ai écrit.
Je suis en train de lire son article. Ouais. Je sais pas en fait.
Ouais,
mais il y a un truc.
J'ai dû louper.
56 heures, ça me paraît vraiment beaucoup. mais par
une
contre.
Une batterie qui dure 56 heures.
Ouais, non, je pense qu'il doit y avoir une petite coquille dans l'article. Mais par contre, ouais, dites-vous qu'il y a quand même une différence en termes d'autonomie quand vous prenez la. Bah, forcément, la 4K, ça consomme beaucoup plus puisqu'il y a 4 fois plus de pixels. Donc forcément, c'est l'écran va vous drainer la batterie beaucoup plus rapidement. Et puis bon, faut aussi se demander, comme tu dis, hein, l'utilisation. C'est vrai que c'est un beau produit, mais bon, quel est l'intérêt d'avoir de la 4K, surtout pour un ordinateur qu'on a sur les genoux. On n'a pas besoin de, à moins d'aller mettre son nez sur l'écran pour voir si on voit les pixels. En l'occurrence, sur les 4K, je pense qu'on les voit, on les verra pas, à moins de mettre une loupe sur l'écran. Bon, c'est un très bel écran. Maintenant, c'est vrai que comme tu dis, pour l'instant, c'est pas forcément la fonctionnalité la plus utile, on va dire.
Qui va me gêner dans ce produit-là, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi moi je ne vais pas l'acheter. Il me plaît, hein, il est magnifique, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, 15 pouces, c'est trop grand pour moi. Je peux pas, enfin, je ne me vois pas me balader avec un écran de 15 pouces sous le coude dans mes trajets. Même s'il n'est pas lourd, ça sera encombrant malgré tout. Et juste à cause de ça, je ne prendrai pas celui-ci.
Ouais, c'est vrai qu'il
Voilà, c'est
faut
tout.
en avoir l'usage, 15 pouces. Il est léger, hein, mais c'est vraiment pour les gens qui aiment bien les grands écrans et qui ont envie d'avoir un écran en voyage, par exemple, pour regarder des films ou regarder des séries. Alors celui-ci, pour le coup, il a une charnière à 360 degrés, donc on peut l'utiliser en mode tablette, en mode tente, en mode tout ce qu'on veut.
D'où le nom, hein.
D'où le nom
Il se courbe dans
Yoga.
tous les sens.
Ouais, voilà, c'est
Ouais.
ça. C'est vrai que Lenovo avait été un peu précurseur en la matière à l'époque où c'était pas forcément aussi courant d'avoir des ordinateurs comme ça qui se plient enfin, qui se retournent à 360. Donc voilà. Donc bon, un appareil en tout cas assez intéressant et ça fait plaisir de voir que des constructeurs comme Lenovo se mettent à sortir des produits un peu ambitieux comme ça. On faisait des blagues en préparant l'émission tout à l'heure. On parlait de l'entrée de gamme Apple qui était beaucoup plus chère que le haut de gamme de chez des Chromebooks. C'est toujours le cas avec cet appareil-là qui est en entrée à 600 $. Je pense qu'il n'y a pas d'annonce de commercialisation en France pour le moment et je serais honnêtement surpris s'il arrivait en France. Mais bon, disons que c'est peut-être pas pour cette version-là, ce sera peut-être pour la prochaine.
Après, je pense qu'ils tâtent le terrain, ils vont voir ce que Acer va faire, enfin, les constructeurs qui sont déjà dispo en France vont faire, et puis si ça marche, ils vont forcément suivre et emboîter le pas des autres.
Ouais, exactement.
Donc, bon, 600 dollars, ça reste quelque chose de très très intéressant. Je vais entendre déjà beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent nous dire, ah, c'est un Chromebook, on oublie l'essence même du Chromebook, un ordinateur pas cher, incassable, remplaçable facilement. Ouais, enfin, il est pas cher pour ce qu'il fait.
Ouais, c'est ça. Et puis dites-vous
Voilà.
que c'est le haut de la fourchette aussi, quoi. C'est difficile d'avoir un. Enfin, c'est vraiment presque ce qui se fait de mieux, j'ai envie de dire, en termes de Chromebook aujourd'hui, quoi. Donc c'est aussi faut aussi garder ça en tête, quoi. Ce sera intéressant de voir si en fait ils se mettaient à sortir une version un peu plus petite de cet appareil-là, quoi. Genre ce même appareil, mais en 14 pouces, tu vois, ou en 13 pouces. Je pense que ça pourrait être une opportunité
Ouais,
intéressante.
ça peut être sympa. Bon, en tout cas, ils ne s'arrêtent pas à ce produit-là parce qu'ils sont venus dans leur bagage à l'IFA, nos amis de Lenovo, ou Lenovo, je ne sais pas, vous le direz comme vous voulez, je m'en fiche. Ils sont venus avec trois appareils. Donc celui-ci, donc on parle forcément du très haut de gamme parce que bah, ça pète la classe quand même. Et puis ils savent le présenter. Hein. Quand tu vois les vidéos, c'est plutôt intéressant. Mais ils sont venus avec des produits plus accessibles au grand public en termes de coût encore. Et puis avec des fonctionnalités un peu plus faibles, mais ça reste intéressant. Ils ont sorti le Lenovo, enfin ils vont sortir en tout cas le Lenovo C330. On repart dans des termes plus classiques, tu vois, qui est un modèle beaucoup plus entrée de gamme. Plus petit, possède un écran de 11 pouces, et puis la définition, par contre, pas top, je trouve, elle est en HD, donc c'est en 1366x768, donc on a une définition d'image qui n'est pas au top, mais bon, ça pourra suffire sur du 11 pouces, hein, largement, et puis un processeur bah, moins cher forcément qu'un Intel, un MediaTek ARM, en 4Go de RAM. Donc on est sur un produit sympa, qui n'a pas de charnière 360, celui-ci. Par contre, il a une charnière à plat, je crois. Ouais. Tu peux le mettre à plat. Je sais pas, là, j'ai pas trop compris l'intérêt d'avoir ça, mais voilà. Et je le dis parce que je viens de le lire, mais si je l'avais lu avant et que j'avais réfléchi un petit peu, je l'aurais pas dit, je crois. On peut rembobiner.
Donc voilà. Et celui-ci, pas l'annonce de disponibilité en France pour le moment.
Non plus, non. Pas. Ouais. En fait, Lenovo n'a rien annoncé pour le. Alors, il le présente à Berlin quand même.
Ouais.
Donc, je me dis qu'on va le trouver en Europe. Donc, si on le trouve à Berlin, on le trouvera en France. Il sera plus facile de le faire venir d'Allemagne ou d'Italie ou que de le faire venir des États-Unis.
Ouais.
Au niveau des taxes et compagnie, ça sera déjà peut-être un peu plus simple. Peut-être.
Ouais, en espérant, comme tu dis, qu'ils le mettent en vente en Allemagne, ce qui n'est pas non plus complètement sûr. Je pense que enfin, l'IFA, c'est aussi, tu vois, la vitrine de ces constructeurs-là, donc il se peut qu'ils se présentent des choses qui n'aient pas forcément l'intention de commercialiser.
Ils viennent plus
même
en Europe s'ils
ne
veulent pas les vendre en Europe, s'il vous plaît. C'est notre salon à nous, celui-ci. Ok ?
Ouais.
Tu viens pas dans mon salon et puis t'enlèves tes baskets et après tu te barres sans faire le ménage. Non, non, tu me laisses ton Chromebook. Non, mais oh.
Ouais, à voir, à voir. Et donc,
voilà, je suis vénère.
Et donc, il y a le S300.
Bon, par contre, il n'est pas cher.
Ouais,
279,99€. Non, 279,99€.
99, ouais. Donc, assez abordable. Et puis, il y a aussi le S330. Donc, pareil, téléphone. Un Chromebook aussi, globalement, d'assez bonne facture. Du 14 pouces.
C'est sensiblement le même. Hein.
Ouais.
C'est juste. Qu'est-ce qu'ils ont changé d'ailleurs? Pas grand-chose hein, d'ailleurs.
Ouais.
Rien.
Ouais, c'est juste. J'ai l'impression que le boîtier est un petit peu différent. Donc, pareil, pas de charnière à 360, mais à plat, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Un petit peu moins cher que l'autre, puisqu'il commence à 249,99. Toujours en dollars. Et puis, plusieurs configurations aussi en termes d'écran et en termes de mémoire. Donc bon.
C'est ça.
Bon, voilà.
C'est des produits qui vont. Alors, pour la petite histoire, on ne l'a pas dit, mais depuis le début, tous les Chromebooks qu'on présente, ils sont tous compatibles Android. Hein. Clairement, il n'y a plus un seul Chromebook qui sort sans être compatible Android.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Ça apporte quelque chose d'intéressant. Par contre, il y a un truc qui va arriver. J'en parle là, même si on ne devait pas en parler, mais tant pis. Il va arriver Campfire, tu sais, la possibilité de booter sur du Windows.
Ouais. Sur du Windows. Ouais, c'est ça. J'allais te corriger, mais non. En plus de la possibilité de faire tourner du Linux, comme on vous parle assez régulièrement dans ce podcast, on a aussi bientôt, oui, enfin, c'est des rumeurs, mais ça se confirme de plus en plus. On va avoir assez rapidement la possibilité de faire tourner du Windows sur des Chromebooks par l'intermédiaire d'un double boot.
Alors, clairement, ces deux produits-là, vous oubliez, hein. Ne serait-ce que par la capacité mémoire déjà. Hein.
Ouais.
Parce que 64Go, ce ne sera pas suffisant pour faire tourner, pour avoir un Windows, parce que chacun a une capacité, enfin, vont avoir besoin d'une capacité de stockage, ne serait-ce que pour l'OS, et 64Go, tu n'installeras rien après, hein, donc on oublie direct. Cela, vous les prenez parce qu'il y a Android, parce que potentiellement Crostini, et puis Chrome OS, mais pas
donc
plus
Linux,
en fait.
Hein. Ouais. Crostini, ouais. C'est pour faire tourner du Linux. Ouais. Ouais. C'est la nouvelle vague de Chromebook, mais c'est pas encore les plus évolutifs en fait. Si vous voulez faire tourner les fonctionnalités qui arriveront sur tous les Chromebooks dans un an, a priori, ces appareils-là seront pas capables de les faire tourner. Après, pour l'usage normal d'un Chromebook, je pense que c'est des appareils qui sont très très bonne facture. Et encore une fois, on parle de 250 dollars, donc bon, ça reste quand même des prix qui sont aussi assez abordables, quoi.
C'est ça, ça reste des beaux produits, et puis on n'a pas forcément besoin de Windows quand on a Linux. Hein. Enfin,
Ouais.
je pense que tous ceux qui utilisent Linux sont d'accord avec moi.
Ouais. Cool. On quitte l'IFA. Donc la
Ouais, ou pas?
International Function. Non, j'arrête. Et on parle.
Mets dans Google Translator et puis tu fais parler la voix de
Ouais, c'est
Google.
ça. C'est ça. Ou j'arrête
Ça
de
sera
parler
plus
allemand,
simple.
tout simplement.
Ouais, puis enfin, je n'osais pas te le dire.
On parle de l'Asus, on parle d'Asus et donc ouais, ils ont sorti, donc ils ont annoncé le C223, encore un très joli nom et
Ouais,
du coup donc c'est un Chromebook 12 pouces, c'est ça, donc assez petit.
c'est ça. Assez petit. Moi, je suis fan de cette taille-là, entre
Ouais.
12 et 13 pouces. Je trouve ça très, très intéressant en tant que nomade.
Ouais.
D'ailleurs, en parlant de ça, tiens, peut-être que je vais péter le truc de Lenovo avec son 15 pouces. Du coup, désolé, je vous en voulais pas au début, mais je vous en veux toujours pas. Le 15 pouces, c'est plus quelque chose qui va être posé sur ton bureau. Enfin, je l'imagine comme ça. Après, je me trompe et c'est peut-être que mon usage à moi. Et pourquoi pas s'orienter sur une Chromebox, tu sais, les unités centrales, et prendre un vrai grand écran, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est une réflexion,
Mais
que
après,
j'ai.
quand tu voyages ou quand tu transportes ton ordinateur de la maison au bureau et du bureau à la maison, c'est un petit peu bon, c'est ça que ça. C'est clair que tu peux pas forcément te balader avec ton écran et ton clavier sous le bras. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que t'as des Chromebox. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Tiens, je suis curieux de voir quel est. Faudrait qu'on fasse un petit focus sur l'état des Chromebox. Donc les Chromebox, hein, pour vous rappeler, c'est en gros un Chromebook, mais juste sous la forme d'une unité centrale. Donc vous branchez un écran dessus que vous avez déjà, vous branchez un clavier, une souris, et voilà. Et vous avez Chrome OS qui tourne sur votre bureau, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que ça se fait un petit peu plus discrète en ce moment, mais c'est aussi une option intéressante.
Ouais, moi je trouve. J'ai fait un article, vous allez le voir dans la semaine, qui parle de trois nouveaux Chromebooks qui viennent d'arriver en France, de chez nos amis d'Acer.
Et ben
Donc des
voilà.
produits assez sympas.
Il suffit de le demander
On en
et
parlera
nique.
plus tard.
Ouais,
Ouais.
c'est
Voilà. Je viens de
ça.
le finir à l'instant, tiens, pendant qu'on parlait, je tapais. Genre, je suis multitâche.
Ok. Et donc
Alors.
du coup, pour revenir sur ce Chromebook 12 pouces, moi, ça me fait beaucoup penser au Samsung, donc le Pro et le Plus.
C'est ça.
Donc là, on est un ordinateur qui a l'air très très bien fait avec. Alors, je sais pas si c'est de l'alu, du plastique, mais il a l'air globalement d'être de très bonne facture. Et
C'est
donc
ça.
là, pour le coup, il est
C'est de
disponible en
l'alu.
France, c'est ça?
Il est disponible en Europe. Ouais, on va pouvoir l'acheter en France, effectivement. Le prix 320 euros, donc on reste dans des prix abordable pour un ordinateur portable.
Ouais.
Hein. Alors, il est sympa. Alors, Asus, ils se sont un peu fait oublier chez nous, en tout cas. Enfin, il y a très très peu de. C'est difficile de trouver un Asus. Par contre, avec celui-ci, ils tapent quand même pas mal, hein, parce que ils axent tout sur mobilité. Donc un poids plume. Il fait moins d'un kilo. Hein.
Ouais.
Donc vraiment un poids plume. Hein. On a un beau clavier. Alors même s'il est petit, si c'est un 12 pouces, on a un vrai beau clavier, donc avec une frappe agréable. Et les touches assez espacées. T'as déjà vu les claviers où toutes les touches sont collées les unes aux autres. Quand
Ouais.
tu tapes un peu rapidement, t'appuies sur deux touches parce que ton doigt était mal placé. Et puis tu sais taper qu'avec deux doigts de toute façon. Donc du coup, tu tapes mal. Et ben là, ils ont quand même laissé de la place à la saisie. Et c'est vraiment sympa pour ça. Une batterie de fou, hein, toujours, hein, comme c'est l'ADN des Chromebooks, hein, c'est 12, je crois que c'est 12 heures sur celui-ci, 10-12 heures, attends, je revérifie, je crois que j'avais dit, ça doit être 12 heures, ouais, sur celui-ci aussi, donc c'est pas mal. Et puis, ils ont mis l'accent sur le côté multimédia de l'appareil, avec une très, très belle image. Enfin, un écran qui est vraiment bien fait, et puis, il peut monter jusqu'à 82 décibels de son. Alors, je sais pas, à partir de combien on devient sourd, mais je pense pas que ça soit 82 décibels. Voilà, donc ils ont fait un son qu'ils appellent audio haute fidélité. Alors donc du coup,
Ça
je
doit
sais pas ce que ça veut
être très
dire.
bien, hein, vu le nom.
Ah, ça doit être super bien avec du surround. Enfin bref, ça doit être vraiment très très bien. Mais je l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas vous dire si c'est génial ou pas. Mais ça me paraît sympathique sur le papier en tout cas.
Ouais.
Il est propulsé par un Intel Celeron double cœur. 1,1 GHz. Bon, bon, c'est bien, mais ça pourrait être mieux quand même, je
Ouais, c'est
pense.
ça. C'est pas terrible. Après, bon, l'avantage, c'est qu'en termes d'autonomie, globalement, on peut s'attendre peut-être à une assez bonne autonomie, quoi.
Ouais, donc je corrige, c'est 10 heures. Ils le vendent pour 10 heures en autonomie.
D'accord. Ouais, ce qui est pas mal.
Ah, franchement, 10 heures, ça me suffit, hein.
Ok.
Largement. Donc, et puis après, les ports classiques, hein, USB-C, maintenant, il y a du USB-C partout maintenant. Moi, je trouve ça génial, cette technologie-là. Il y avait même un bruit de couloir. On enregistre après la fameuse keynote, vous savez, le rendez-vous des gens, la pomme, là, tout ça, là. Il y avait des bruits de couloir qui annonçaient un iPad avec un port USB-C au lieu du port propriétaire Apple. Donc ça m'avait fait sourire, je l'attendais avec impatience pour démonter Apple et ils ne l'ont pas annoncé.
Ah
Et voilà. Mais comme quoi, ça fait son petit bonhomme de chemin et l'USB-C, moi je le trouve très très intéressant comme port.
ouais.
Donc ils l'ont mis dedans. Ils ont amélioré leur Wi-Fi aussi, ils ont amélioré plein de choses. Le pavé tactile est plus réactif. Alors plus réactif par rapport à quoi? Ils disent pas trop, mais a priori il est plus réactif. Je sais pas, hein. Des fois c'est un peu vague. Il est plus vite qu'avant. Ouais. Et d'accord. D'accord. Ok. Super. Mais bon, ça reste un beau produit. En tout cas, les screenshots que j'ai mis sur le site me montrent un très très bel appareil. En tout cas,
Voilà, bah,
je suis curieux de l'avoir.
faudra que tu essayes de. Ouais, ça. T'envoies des. Tu t'arrêtes pas d'harceler Asus pour pouvoir mettre la main dessus, faire un petit test et nous dire ce que t'en penses dans quelques semaines ou quelques mois.
Je m'y attelle. J'ai déjà pollué leur boîte mail.
D'accord.
Donc j'ai créé plein de boîtes mail.
Date de sortie, tu l'as dit, c'est en octobre?
Ouais, mais ce serait bien qu'ils le lancent aussi pour mon anniversaire, non?
Non, en fait, c'était une question,
Non,
j'ai pas.
je sais pas du tout. Non, j'ai pas de date de sortie, je
Ok,
crois.
a priori, il n'y a pas encore
Fin
d'annonce.
d'année, mais je crois pas qu'il y ait eu la date officielle encore.
D'accord. Ok.
Il n'y a pas de date. Enfin, je l'ai pas noté en tout cas, donc
Ouais.
je peux pas. Je ne m'avance pas. Ce serait vous mentir quoi qu'il arrive. Donc,
D'accord.
je vais pas vous mentir. Je vous respecte trop pour ça.
J'essaie de trouver une transition, mais j'en trouve pas. Donc, on va parler du Pixelbook.
Ah,
Donc voilà.
Pixelbook.
Donc là, on sort de l'IFA clairement. Enfin, et puis on vous parle de ce qui va se produire probablement dans les semaines à venir. Donc, il y a a priori l'annonce d'un nouveau Pixelbook qui va être annoncé donc le 9 octobre. Avec l'annonce du Pixel, dont c'est déjà à peu près tout. Donc j'avais annoncé une présentation autour du 4, et en fait, non, a priori, la date qui avait fuité était pas la bonne. Donc comme quoi, hein, il y a toujours des surprises. Et donc le Pixel va être présenté autour du 9 octobre, enfin le 9 octobre.
Le 9 octobre.
Voilà, et ils vont
Et aussi
pouvoir.
en France, hein. C'est génial, hein.
Alors
Voilà.
voilà, ouais, j'avais dit aussi, j'étais un peu sceptique quant à l'annonce de l'arrivée du Pixel en France. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rumeurs, en particulier une présentation qui va se tenir à Paris, organisée par Google France. Il semblerait une très, 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 très forte présomption pour que le Pixel soit distribué, le Pixel 3 soit distribué en France. Donc c'est assez cool. Et puis au-delà de ça, il y aura aussi des présentations du nouveau Pixelbook. Donc, qu'est-ce qu'on sait, Nico, du Pixelbook? Est-ce qu'il y a eu autant de fuites et de rumeurs ou autant de fuites que pour le Pixel téléphone?
Et ouais, alors les fuites, on en parle ou pas, non? T'as le temps? Vous avez le temps? Ah, qui ne dit mot consent, donc ça veut dire oui. Alors c'est un truc de fou. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs autour de ce produit-là. Donc évidemment, alors, on ne sait pas, hein, tout ce que je vais vous dire, c'est sous. Normalement, j'ai une clause de confidentialité envers Google. Ah ben non, j'ai pas. Et alors du coup, je vais pouvoir vous dire tout ce que je sais. Il y a pas mal de choses. Donc le Pixelbook, ça appellerait peut-être, je dis bien peut-être, le Pixelbook 2. Ouais, je sais, c'est étonnant, mais ce serait peut-être son nom. Alors du coup, il se cachait sous un nom de code qui s'appelle, c'était Sheza. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fiche. Donc en fait, et du coup, en sachant ça, on a pu fouiller un petit peu à droite à gauche pour savoir ce qu'il en était. Et a priori, il serait propulsé par un processeur Qualcomm. Donc c'est une version 845, je crois que c'est pas la plus puissante, mais c'est la dernière en usage, la dernière version des processeurs Qualcomm, la 845. Je crois qu'il y a une 900 quelque chose qui sort, mais pour l'année prochaine ou fin d'année. Donc là, on part sur le plus gros qui existe actuellement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre dessus? Donc ça veut dire qu'il y a de la patate, quoi. C'est quelque chose qui va aller assez bien. Et en même temps, ça m'étonne pas parce qu'il va falloir que Google, enfin, quand Google sort un produit, un Pixelbook ou un Pixel, c'est pour montrer le chemin, c'est le cahier des charges pour les autres constructeurs. C'est voilà ce que maintenant on peut faire avec nos produits. C'est ce que je m'avais déjà dit, souviens-toi Thomas, avec le Pixelbook premier du nom. En fait, c'est ni plus ni moins que le cahier des charges des prochains. C'est voilà, le voilà notre cahier des charges. Il sait tout faire, faites pareil. Ça va, c'est à peu près ça, je
Ouais,
crois.
non, c'est ça,
Ouais, non, je me trompe pas.
c'est gros le j'allais dire l'appareil témoin, mais je pense que c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est vraiment de faire, c'est un peu comme un concept car en automobile, hein, désolé, hein, on y revient toujours, mais la différence c'est qu'en général les concept cars sont pas vendus, alors que là c'est a priori un appareil que Google va pas se contenter de présenter, mais qui va aussi mettre en vente. Mais ouais, l'idée c'est vraiment de fabriquer ce qui serait le Chromebook de rêve pour donner un peu la tendance et influencer les constructeurs tels que Acer, Dell et Lenovo dont on vient de vous parler, pour qu'ils fassent des appareils similaires en fait.
Je suis sûr que tu vas me poser la question, mais pourquoi ils prennent un Snapdragon 845 alors qu'ils pourraient très bien prendre un processeur Intel Core quelque chose?
C'est exactement la question que j'allais te poser, Nico.
Et moi, je me la suis posée parce que je me suis demandé pourquoi ils n'aiment pas Intel, ils n'aiment pas Intel. Bon, bah, ok, mais pourquoi? En fait, a priori, d'après ce que j'ai compris, et je vous invite à me contredire ou au contraire à dire que j'avais raison, ça fait toujours plaisir, sur Telegram ou sur Twitter et compagnie, laissez-nous des petits commentaires là-dessus. Mais a priori, un Snapdragon 845, c'est super sympa parce qu'en fait, ça dissipe la chaleur plus vite. Donc, ça, c'est bien parce que la plupart du temps, les Chromebooks n'ont pas de ventilateur. On appelle ça des fanless. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont hyper silencieux. Donc, ce serait judicieux d'avoir un Snapdragon qui ventile tout seul, enfin, qui ventile ou dissipe très rapidement la chaleur. Ça permet aussi de mieux gérer l'autonomie des batteries. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Je suis pas très, très. Je vous invite à écouter d'autres podcasts qui parleraient de ça. J'en ai un en tête, mais j'ai plus le nom
Comme
avec les deux Guillaume.
Tech Café par exemple.
L'autre, pas Tech Café,
Ah,
la chronique
la chronique des
composants.
composants. Ouais. Et si vous êtes abonné à Tech Café, vous aurez la chronique des composants dans le même flux. Mais ouais, en effet, c'est eux les experts.
Ouais.
Allez écouter ce qu'ils ont à dire sur le Snapdragon 845. Mais ouais, tu l'as dit, en fait, c'est un système, c'est un, comment ça s'appelle? C'est une puce qui est dédiée à la mobilité. Et donc c'est une puce qu'on trouve dans des appareils mobiles. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la puce qu'il y a dans les derniers Samsung Note et Galaxy S, on en a combien? S9 maintenant.
iPhone S9, S9.
Ouais, donc c'est une puce qui est a priori en général utilisée dans des appareils, dans des téléphones mobiles, enfin dans des smartphones. Donc comme tu dis, il y a moins besoin de refroidir, et en même temps il y a des capacités et une autonomie accrue.
Donc ça va être vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Bon, on sait que bah, forcément, ce sera un écran au minimum 2 en 1, voire détachable. Alors, certains disent qu'il y aurait peut-être 2 Pixelbook différents. Donc soit façon yoga, tu le retournes dans tous les sens, soit tu le détaches. Ce qui serait pas idiot-idiot en soi, hein, parce que Google mise beaucoup sur le tactile dans les Chromebooks maintenant. Donc on voit la convergence Android-Chrome OS qui se fait de plus en plus et la facilité d'utilisation de Chrome OS en tactile est vraiment bluffante maintenant. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ben, un stylet. Forcément, hein, pourquoi pas mettre un stylet passif. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de batterie. Hein. Tu me dis, hein, si je me trompe, n'hésite pas à me contredire.
C'est ça, c'est ça.
Hein. Il travaillerait avec Wacom. Donc toujours, on en parle toujours de Wacom. On va croire que je suis actionnaire chez eux, mais c'est pas ma faute. A priori, c'est les meilleurs sur le tactile, enfin sur le système de tablette graphique et compagnie. Donc ils ont un bagage derrière qui est déjà très très intéressant pour l'utilisation des stylets. Et visiblement, ils seraient donc développés ou en tout cas avec des technologies de Wacom dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous le dites pas à Google que j'ai dit tout ça, je risque des ennuis. Hein. Une puce eSIM. Ah ouais, on en avait parlé des puces eSIM. Il serait peut-être 4G.
Ouais,
On
alors
pourrait peut-être.
ça serait
Ce
génial.
serait génial. On peut utiliser notre Chromebook en mobilité, mais il faut soit un point Wi-Fi, un point hotspot, soit utiliser son smartphone en partage de connexion. Et ben là, potentiellement, il accueillerait une carte eSIM 4G. Donc, l'avantage d'une eSIM, c'est une carte SIM qui est intégrée et qui permet de ne pas avoir à changer de carte SIM à chaque fois qu'on change d'opérateur. Encore faut-il que les opérateurs français se lancent sur ce marché-là. C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire, Nico. A priori, alors contredis-moi si je me trompe, toi aussi, mais d'après ce que j'ai compris, Orange aujourd'hui est le seul à proposer de la eSIM.
Et que pour l'Apple Watch version 3,
Ouais, voilà, c'est
ou
ça.
peut-être la 4 maintenant, et c'est un abonnement supplémentaire, compagnie, compagnie. Dans ce que j'ai entendu, Free s'y intéresse aussi. Pourquoi, je ne sais pas. Les autres opérateurs, je ne sais pas encore, j'ai pas fouillé pour savoir s'ils s'y intéressaient, mais s'il y a déjà deux gros opérateurs qui s'y intéressent, je pense que les autres vont aussi faire le pas. Ça serait bien. Bon, faut dire que c'est aussi une manne financière importante, les cartes SIM, hein. Les opérateurs, quand tu veux changer ta carte, ils te la facturent 10 balles, hein. Donc, c'est quand même intéressant de garder ça. Donc, peut-être que ils hésitent à passer là-dessus. Mais bon, si ça vient, on pourrait peut-être embarquer notre carte, enfin notre forfait mobile illimité Internet dans le Chromebook, ce qui fait qu'on aurait Internet partout, tout le temps, sans avoir besoin d'un smartphone connecté. Et ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Mais bon,
Là, les
ils sont très
gens,
d'accord.
je ne suis pas là pour donner des conseils d'investissement, mais c'est vrai que je suis en train de me dire, les gens qui ont investi dans Oberture et comment ça s'appelle, tous ces fabricants de cartes SIM, bah oui, je pense que la carte, enfin les fabricants de cartes à puces, on va dire, la carte SIM qui était une grosse partie de leurs ressources, on va dire, ou de leur rentrée d'argent, va peut-être se tarir dans les années à venir. Parce que c'est vrai que pour utiliser une eSIM depuis maintenant 6 mois, j'ai aucune raison, à moins que ce soit pas supporté par l'opérateur ou par le téléphone, vraiment aucune raison de revenir en arrière, quoi. C'est clairement beaucoup plus simple et
En fait, toi, tu t'en fiches, enfin, l'utilisateur lambda, toi, moi, une fois qu'on a choisi notre opérateur, avant, ce qui était chiant, c'était de changer la carte SIM, on perdait ses contacts pour ceux qui avaient mis dessus. Bon, là, ça simplifie simplement le passage de l'un à l'autre, ou voilà.
Ouais, et puis tu déballes ton téléphone et hop, tu l'allumes et comment dire, tu le connectes à ton opérateur et c'est bon, t'as pas besoin de t'embêter à récupérer la carte SIM ou autre. Enfin bon, c'est vrai que c'est un détail, mais ouais, dire que ça change la vie, c'est un petit peu excessif, mais en fait, ce que je cherchais à dire, c'est que la carte SIM t'apporte rien de plus en fait.
Team est inutile et sert à rien au
Ouais,
final, hein.
c'est un petit peu ça,
À
ouais.
part être lié à un opérateur et pour t'embêter, on t'envoie la nouvelle carte SIM si tu la perds, tout ça. Par
Ouais.
contre, la question est-ce que ça tombe en panne une carte SIM classique? Et si oui, est-ce qu'une eSIM tombe en panne aussi? Tu
Bah
vois?
non, bah disons que tout est logiciel, hein, donc bah oui, enfin ça arrive de temps en temps que les choses ne marchent pas comme prévu, mais bon, globalement, il n'y a pas plus de raison que ça marche moins bien de ce point de vue-là, quoi. Et comme tu dis, l'avantage, c'est que bah, tous tes appareils qui sont compatibles eSIM, typiquement, tu reçois ton nouveau Pixelbook demain, ou on va dire le 10 octobre. Si jamais il est compatible avec ton opérateur, t'as juste à l'allumer et le connecter. Tu vois, t'as pas besoin de
Ouais.
t'embêter à contacter ton opérateur pour qu'il t'envoie une nouvelle SIM, qu'il va falloir que tu mettes dans ton appareil, que tu vas connecter, etc., etc. Ça peut se faire en 10 minutes, quoi, ou en 5 minutes, quoi. Donc,
Ouais, c'est bien.
c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quand même, bah, c'est beaucoup plus pratique, quoi. C'est un peu la différence entre l'email et voilà. Ça, j'ai trouvé une analogie qui a rien à voir avec l'automobile. La différence entre la SIM et la eSIM, c'est un peu la différence entre la carte postale et l'email, en fait.
Ouais. Ouais, c'est
C'est un
ça,
peu
faire de la matérialisation.
ouais voilà c'est ça, c'est un peu ça l'idée, donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, ça change, enfin, c'est pas révolutionnaire mais c'est quand même un peu plus simple on va dire,
C'est cool,
donc
c'est
voilà.
cool. Bon, petite histoire, j'aime pas Apple. Enfin non, c'est pas que j'aime pas Apple. Je fais exprès d'être un hater de Apple parce que comme ça fait du buzz et on parle de nous. Non, en fait, Apple. Donc, tu as suivi la keynote un petit peu d'Apple ou pas du tout?
Ouais, j'ai regardé, ouais.
Dans leurs iPhones quand même.
Comment? Je crois que ça a
Alors,
coupé.
ils intègrent une eSIM dans l'iPhone.
Ah ouais.
Qu'en
Et
France, on va voir apparaître plus souvent, et c'est peut-être pour ça que les deux gros opérateurs Orange et Free s'intéressent de plus près à ça.
ouais. Et puis il le supporte aussi, comme tu dis, dans comment ça s'appelle? L'Apple Watch 3. Donc c'est pareil. Depuis l'Apple Watch 2 d'ailleurs, je crois. C'est de la
Ouais.
eSIM. Mais le Pixel premier du nom n'était pas compatible, mais le deuxième Pixel, depuis le Pixel 2, en fait, je crois que c'est compatible eSIM, donc j'imagine que le Pixel 3 est compatible eSIM aussi. Pas de souci.
Je
sais pas ce qu'il en est du côté de Samsung, mais bon, c'est clairement une technologie qui est doucement adoptée par les fabricants. Et puis bah là, c'est vrai que si ça sortait sur le Pixelbook, bah, le Pixelbook serait probablement un des premiers ordinateurs portables à intégrer cette technologie. Donc clairement, ouais, c'est intéressant, ouais, à suivre. Mais je suis assez intéressé de voir comment les choses vont se développer à ce niveau-là.
Bah, ça va aller bien. Ça va aller bien. Enfin, moi, je pense que les constructeurs, les opérateurs, parce qu'il va falloir négocier entre les constructeurs et les opérateurs, ils n'ont pas le choix, parce que c'est une manne financière, comme je disais, importante pour les opérateurs, de vendre des cartes SIM, hein, parce que quand tu te la factures 10 balles et que tu l'achètes, je ne sais pas, mais admettons 1 euro, alors que ce n'est pas le cas, hein, c'est forcément moins cher, ils se font un peu d'argent dessus. Là, ils vont plus en faire, donc il va falloir qu'ils pensent différemment leur façon de proposer leur forfait. C'est plutôt ça qui va nous bloquer en France qu'autre chose, je pense. Surtout quand il y a des forfaits à 5 balles en ce moment, en illimité ou autre chose comme ça. Je ne sais pas où ils vont faire de l'argent après.
C'est clair.
Mais bon. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur le Chromebook Pixelbook? Eh bien, qu'il aura une mémoire de stockage UFS, Universal Flash Storage. Alors, c'est quoi ce truc-là? Simplement, ça permet d'accélérer, d'améliorer la vitesse de transfert et de fiabilité entre les différents stockages de mémoire. En gros, tu déplaces plus vite tes choses entre tes produits, en fait. Tu déplaces plus vite tes fichiers entre tes différents appareils. Donc, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est tout ce que je sais, je crois. C'est bien déjà.
Ouais, c'est bien. Et alors, un petit truc en plus, c'est pas encore complètement confirmé, mais il semblerait que le Chromebook, le Pixelbook soit vendu avec un lecteur d'empreintes.
Un lecteur.
Donc voilà, il y a des fuites, encore une fois. Enfin, c'est pas vraiment des fuites, mais c'est plutôt des gens qui sont allés regarder un petit peu à l'intérieur du code source de Chrome OS et qui se sont rendu compte qu'il y avait des visuels qui avaient été intégrés qui montraient une animation en particulier d'un doigt qui viendrait toucher le haut de l'écran en haut à gauche et qui viendrait en gros déverrouiller l'ordinateur à l'aide d'un écran, d'un capteur d'empreinte digitale, de la même façon que ça existe aujourd'hui sur les téléphones mobiles, ou en tout cas les téléphones Android, puisque c'est en train de disparaître sur les téléphones Apple. Donc voilà, donc à voir un peu comment les choses se développent. Je pense que ce serait un peu plus que simplement déverrouiller l'ordinateur. Je pense qu'on aurait assez rapidement l'intégration de ça à des applications web aussi. Et je vois bien, comme ça existe aujourd'hui sur Android, sur Google Pay, la possibilité de payer directement sur un site web, par exemple, juste en venant toucher le capteur d'empreinte digitale sur le haut de l'écran.
C'est Amazon qui va être content, dis donc, ce sera plus le one click, ce sera le poste, touche ton truc que je te prends ton argent.
Ouais, en gros, c'est ça, ouais.
Ça sera encore plus rapide c'est bien, je dépensais déjà pas assez sur Amazon, merci.
Ouais, non, c'est clair que ça existe déjà d'ailleurs au passage sur enfin, ça existe déjà, c'est censé exister sur Mac, mais tu vois, le Apple Pay, mais j'ai l'impression que ça s'est pas forcément aussi développé sur le web que ça existe sur mobile. Donc à voir un petit peu comment ça évolue.
Ouais. Bon, en tout cas, tous ces produits-là, on a de fortes chances de les trouver en France. Pas tous, mais pas loin. Et peut-être même le Pixelbook, parce que, vous le savez, depuis début d'année, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus si c'est en présentation ou pas, Google a signé avec Darty et la Fnac pour présenter ses produits. On a vu une, on a, tu l'as vu, t'as vu mon article dessus?
Ouais.
Ouais, et t'as vu bah on en a déjà parlé la dernière fois, hein, mais donc cette fois, je pense que nos amis Darty Fnac vont vraiment mettre beaucoup 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 dessus parce que leur stand il est énorme et du coup on va forcément voir apparaître le Pixelbook. Enfin pour moi il est clair que le Pixelbook va arriver. Et ces deux géants, enfin ce géant, puisque c'est une seule entité maintenant, Darty Fnac, commence déjà. Il avait promis d'ailleurs de vendre des produits pour la rentrée scolaire. Et ça y est, c'est fait. Ils viennent de mettre en vente, enfin ils ont mis en vente déjà depuis une quinzaine de jours, deux produits pour être exact, et puis référencer deux autres. Et enfin, on peut enfin acheter des Chromebooks directement en magasin. Voilà, ça, c'est bluffant. Vous allez, vous demandez pas conseil au vendeur parce qu'il sait pas ce que c'est qu'un Chromebook. Vous allez dans le rayon, vous prenez votre Chromebook, vous allez à la caisse, vous payez avec votre argent en espèces si vous le souhaitez, et vous repartez avec un Chromebook sous le bras. Et donc les partenaires de comment ça s'appelle de Darty ou de Fnac, c'est l'Asus Chromebook Flip C302, et puis c'est je crois un HP, mais on y retrouve l'Acer Chromebook Air 13. Et puis le Acer Spin 11, donc plusieurs Acer, du HP et du Asus. Donc on commence à avoir des produits apparaître sur les étals de ce géant, et ça va être sympa, et c'est pour ça que je pense que nous verrons apparaître les autres petit à petit. Ils vont prendre de plus en plus de place sur les étals.
Comment? Excuse-moi, je t'ai coupé.
Une très très bonne chose, et ça nous permettra de voir vraiment, enfin, de pouvoir toucher avant d'acheter un produit, ça reste toujours intéressant.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une petite révolution, puisque les Chromebooks avaient disparu des rayons des distributeurs français depuis quelques années, donc là ils font leur grand retour, et on peut les acheter, comme tu dis, en direct, directement avec de l'argent liquide. Ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est clair que c'est une bonne nouvelle. Les appareils qui sont présentés sont pas forcément les Chromebooks, on va dire, les plus excitants du moment, mais malgré tout, ça reste une très bonne nouvelle.
Ouais. Quoi d'autre à dire? Est-ce qu'on peut continuer, Thomas? T'as encore un peu de temps?
Ouais. Bah écoute, on a pas encore une heure d'enregistrement, tu vois, donc...
Et on a combien? On a un timer, non, là?
On a 55e minute. On a encore... c'est bon, on peut encore discuter pendant une demi-heure, là.
D'accord, là. Nickel. Alors, du coup, on va parler de Google, parce que Google, ben, l'air de rien, c'est le papa de Chrome, de nos Chromebooks, de Chrome OS, enfin, de l'univers informatique comme on le connaît aujourd'hui, du développement d'Internet, parce que sans lui, on ne saurait pas faire des recherches sur Internet. On sera encore à demander à un chien d'aller chercher pour nous. Vas-y, va chercher Lycos. Alors, n'importe quoi, demande à un chien de te trouver une information. Bizarre, mais bref. Et Google ne fait pas que dans le Chromebook, ils font aussi un petit peu partout. Et ils ont lancé il y a quelques temps aux États-Unis, l'année dernière déjà, un truc que j'avais trouvé sympa et qui nous avait été enlevé directement en France, on n'avait pas le droit de l'utiliser. C'était Google Livre Photo. Je ne sais pas si tu l'as utilisé ou en as entendu parler, Thomas.
J'en ai entendu parler et je l'ai utilisé. J'ai commandé un livre photo.
Tu vas pouvoir nous faire un petit retour dessus.
Ouais, c'est bien. Voilà.
Thomas.
non, ça marche bien. Disons que l'avantage, en fait, c'est que c'était très intégré à Google Photos. Donc, assez logiquement. Hein. Mais c'est vrai que Google Photos est quand même, pour les gens, les livres photos, hein, je pense que j'apprends à personne ce que c'est. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, quasiment depuis l'invention de la photo numérique. Donc c'est pas forcément nouveau, hein. Tout le monde se rappelle de comment ça s'appelle, MyPix, je sais plus. Enfin bref, il y a eu tout un.
Bah, tout le monde s'en rappelle, mais pas moi.
Tout le monde s'en rappelle, sauf moi et toi. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même de nombreux Pixmania, voilà, c'est ça. Il y a eu de nombreux acteurs du livre photo et de la photo numérique qui ont proposé ce genre de service. La grande différence avec le livre photo Google, c'est que c'est très intégré à Google Photos, et Google Photos est de loin la meilleure application photo qui existe en ce moment, à un point par exemple tel que il est capable de vous organiser vos photos par événement, genre vous partez en vacances, il va vous quasiment presque automatiquement vous regrouper toutes les photos de vacances, il va même vous suggérer un livre photo. En disant, regardez, ces photos-là, elles sont bien. Tiens, t'as été là en vacances. Tu veux faire un album photo pour te rappeler de tes vacances avec toutes ces belles photos que j'ai choisies pour toi. Bref, c'est vraiment, on est vraiment en présence d'un outil qui a été très très bien pensé, qui est super efficace. Donc voilà. Donc on va dire le concept n'est pas révolutionnaire, mais l'exécution est tellement bonne que ça en fait un très très bon service et un très très bon. Ouais, quelque chose qui est vraiment, vraiment bienvenu, on va dire.
Et ce qui est génial, c'est que je suis comme toi, moi je suis convaincu par le produit. Alors, je suis pas très amateur de livres photo, même si plus je vieillis, plus je me dis c'est pas mal de. En fait, je m'aperçois que je regarde pas forcément mes photos sur ordinateur ou sur smartphone. Enfin, ouais. Je les consulte pas, j'en fais 60 000, mais je les consulte pas vraiment, en fait. Et je me dis qu'en fait, si j'avais un événement vraiment intéressant, un mariage, un baptême, je sais pas quoi, un truc vraiment ou un voyage, je pense que j'aimerais bien l'avoir sur un livre photo de qualité, en fait. Et j'aurais plus tendance à, tu vois, un soir d'hiver au coin du feu, avec mon petit plaid sur le dos et ma petite canne et mon verre de café. J'aurais tendance à prendre le livre dans ma bibliothèque, que je n'ai pas parce que je ne sais pas lire, le livre de ma bibliothèque et regarder les images et repenser au temps passé qui était génial. Enfin, j'imagine ça comme ça en fait. Et j'aurais plus tendance à regarder un livre que regarder mes photos. Je ne sais pas pourquoi. À l'heure où tout le monde fait de la photo, je me dis qu'à un moment, il faut peut-être se poser sur un truc, un support et pouvoir le consulter tranquillement, sereinement, sans qu'il y ait besoin d'électricité.
Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un bon moyen de garder des souvenirs à portée de main. Et puis un truc que j'ai pas dit aussi, c'est la facture du, enfin la facture, la façon dont le livre est fait est très très bonne aussi. Donc c'est vraiment un livre de bonne qualité quoi.
Et a priori soucieux de l'écologie parce que sur du système papier recyclé, je sais pas quoi. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'intégration avec tout ce que j'ai en fait. Parce qu'on fait tous des photos avec son téléphone portable maintenant. Hein, c'est ce qui fait qu'il y a de la photo partout, Instagram, Snapchat et compagnie, plus ou moins de bonne qualité. Et ça vous intègre tout ça dans Google Photos. Et si t'as pas envie de faire ton album depuis ton smartphone, ce qui est très simple hein, déjà, bah tu peux le faire depuis ton Chromebook. Tu vas sur Google Photos depuis ton Chromebook et puis tu peux générer ton album photo très simplement. Donc, ce qui fait que tout est intégré dans l'écosystème de Google pour t'aider. Et si tu as commencé un livre photo sur ton smartphone et puis que finalement tu t'es arrêté, bah, Google va te le rappeler quand tu ouvriras ton Chromebook. Il va dire, ah, au fait, t'as un album photo en cours, tu veux le terminer?
Ouais,
Donc, c'est assez sympa. J'ai trouvé ça judicieux.
c'est vrai que l'intégration, j'ai oublié de le préciser, mais ça marche. Google Photos marche aussi bien sur votre ordinateur que sur le mobile en fait. Et vous pouvez presque aussi facilement que sur un ordinateur créer votre album photo et l'imprimer directement à partir de votre téléphone portable quoi. Donc ouais, encore une fois c'est donc le point de départ de la news, c'est que ça arrive en France. Si vous avez fait des photos cet été et que vous avez envie d'en faire un album, n'hésitez pas quoi. Ça c'est vraiment si vous avez envie d'en faire un album, c'est vraiment la solution qu'il faut utiliser.
Simple, efficace et pas cher.
Voilà.
Ça me rappelle une autre pub, ça. Mais bon, bref. Google s'est pas arrêté à juste nous ouvrir les droits d'accès aux livres photos, puisqu'il est aussi en train de travailler sur un assistant personnel. T'en as entendu parler des assistants personnels? Je crois que ça arrive.
Ça me dit quelque
Oui, ça va bien
chose.
marcher.
Ouais.
Et donc, leur truc, le Google Mini, souvenez-vous, on en parle bah, tout le temps. Hein. Bon,
Voilà.
ça reste un fil conducteur en plus des Chromebooks. Nous, on parle de l'assistant. Il y a un truc qui, on en parle souvent. On se dit, bah, il va arriver dans les Chromebooks. Forcément, le Pixelbook a une touche dédiée à l'assistant vocal et à l'assistant personnel vocal. Wow, c'est pareil, vous m'avez compris. Eh bien, il paraîtrait qu'il n'y a aucun autre constructeur qui a rajouté cette touche-là. Ça les embêtait de rajouter une touche supplémentaire, donc ils ne l'ont pas fait. Et pour pallier à ça, Google s'est dit, ouais, mais moi, je veux quand même que les gens, ils utilisent mon assistant. Ça serait quand même vachement bien pour que je récupère vos données personnelles. Et ben du coup, ils se sont dit, on va faire un raccourci clavier accessible donc sur tous les Chromebooks. Ce serait, ah mince, je l'ai plus en tête. Je crois que c'est un truc comme Shift, la touche, enfin majuscule recherche S dans mes souvenirs. Faudrait que je regarde la news que j'ai écrite il y a quelques temps. Mais c'est un truc comme ça, donc un raccourci clavier très rapide qui permettrait de lancer l'assistant personnel directement sur son Chromebook. Alors ce serait non, ce serait recherche A, pardon, hein, très simple en fait. Et ou alors en l'appelant, lui disant OK Google, je voulais le faire. Et voilà, j'espère que ça a allumé tout vos OK Google. Donc c'est bien, moi je trouve ça intéressant. Et souviens-toi, j'étais encore une fois visionnaire parce que j'en ai parlé il y a au moins 7 ou 8 épisodes.
Ouais, on en avait parlé à l'époque où bah justement le Pixelbook arrivait avec une touche spéciale assistant. Donc ouais, recherche A. Tu vois, c'est marrant. Là, j'ai le Pixelbook sous les yeux. Et alors, du coup, bon, moi, je fais partie des petits vénards qui a directement la touche assistant. Mais le bouton recherche n'est pas sur le Pixelbook. Ou alors, c'est moi qui le vois pas.
Placé par la touche assistant,
Ouais,
c'est ça?
c'est ça. Et c'est assez marrant. J'avais pas réalisé. Donc ouais, donc recherche et A. C'est une rumeur pour l'instant ou c'est disponible à partir de Chrome 70 ou c'est
Je sais plus, ça a été vu. Ah oui, non, ça sera disponible a priori. Il faut juste lancer un truc qui s'appelle. Donc, tu ouvres un navigateur web. Alors, c'est pas un flag, c'est rien du tout. En fait, il faut juste vérifier si activer ou donner l'autorisation de ton Chromebook. Je sais pas exactement. En fait, tu vas sur Chrome 2. /assistant trait d'union tiré du 6 pour les opt-in, donc OPTIN, slash, tu lances et ça te donne la page, ça te donne la page assistant et ça ouvre les droits d'accès si tant soit peu, tu y as droit dans le pays où tu habites. Alors je vais la lancer en direct pour voir si cette fois j'y ai le droit. Ça lance chargement de l'assistant Google. Et puis bah, ça cherche beaucoup moi pour moi. Et puis à la fin, bah, ça te permet de le paramétrer ou pas. Et moi, bah, impossible de charger l'assistant, veuillez vérifier votre connexion réseau et réessayer.
D'accord.
Une bonne connexion réseau, hein, mais il ne veut pas. Donc pas... On lance ce lien. Il est dans les notes, dans l'article que j'avais fait. Donc je mets dans les liens de l'émission, je mettrai le lien de l'article si vous voulez vous tenter d'activer l'assistant avec ce raccourci clavier sur votre Chromebook.
Ouais, ça ressemble à un bug. C'est bizarre, parce que si tu dis que tu as du réseau et il te dit qu'il n'y a pas de réseau, je parie qu'à tous les coups, c'est bloqué au niveau serveur ou quelque chose comme ça.
Ouais. C'est ce que je pense aussi.
Ouais, peut-être que ça va être activé.
Pour moi, c'est encore pas ouvert pour la France, tout simplement, ou même pas ouvert du tout dans aucun pays, parce que je n'ai pas entendu quelqu'un nous dire qu'il avait réussi à y accéder.
Ouais. Ok, bon bah écoute, affaire à suivre, mais voilà, assistant, comme tu l'avais prédit il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, assistant arrive sur tous les Chromebooks, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Toujours dans
si
la
on parle d'assistant, on en parle un petit peu d'ailleurs. Ah non, c'est moi qui fais la transition.
Ah ok. vas-y, la transition à toi.
Transition maintenant. Bon, on parle des assistants Google Home.
Allez, on va finir sur Google Home. Donc alors déjà, grande nouvelle, le Google Home, grande nouvelle que tout le monde attendait, le Google Home Max arrive enfin en France.
Pour la modique somme de
399,99€. Voilà. Donc on rigole un petit peu parce que c'est donc le plus grand de la famille Google Home. Donc c'est une grosse boîte qui a un très très bon son, qui a assistant intégré, qui n'a pas de câble de port optique au dos. Donc vous pouvez pas le brancher à la télé en utilisant le port optique ou à votre chaîne Wi-Fi en utilisant le port optique. Vous êtes obligé d'utiliser un jack standard. Mais malgré tout, ça reste en gros ce qui se fait de plus proche d'un système audio de qualité fait par Google qui intègre assistant. Voilà, bon.
Comparé en termes de son à l'enceinte d'Apple, la HomePod en termes de son, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est
dans la même gamme de prix, puis dans la même gamme de son.
Ouais.
Je pense que les fans d'Apple vont me tuer en me disant « Mais non, c'est de la merde ton truc. »
Ouais, il y a pas mal de gens qui disent que le Google Home Max n'est pas aussi bon que le Google, que l'HomePod. Bon, ouais. Je veux bien croire. En même temps, je me dis que c'est... À ce point-là, c'est un petit peu à... Enfin, je sais pas. Disons qu'en fait, on rentre un petit peu dans une autre catégorie qui est la catégorie des audiophiles. Donc, si vous êtes vraiment audiophile et que vous y connaissez en audio, bah, peut-être que vous n'avez pas envie d'acheter un Google Home et qu'il y a probablement d'autres systèmes qui sont d'une part plus compliqués à mettre en place, plus compliqués à configurer, mais qui vous donnent un son de meilleure qualité, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Et puis après, bon, bah, pour le reste d'entre nous, moi, je ne suis pas particulièrement audiophile. Bah c'est vrai que le Google Home Max c'est probablement le meilleur système audio que vous pouvez acheter en ce moment qui intègre assistant quoi.
Après avoir donc il est disponible en France hein, pour 400€ chez Darty, à la Fnac et j'ai vu également sur Amazon dernièrement. Okay. Donc tous au même prix, hein, y a pas de différence de prix. À voir ce que ça donne. Moi je n'en ai pas l'utilité, j'ai assez de mon M-Cinéma et puis tout mon Google Mini me va très très bien. Il complète largement, enfin, il me permet d'interagir avec tout ce que je veux. Et perso, je n'utilise pas vraiment mon Google Mini pour enfin mon Google Assistant pour écouter de la musique en fait. Je ne dois pas être normal parce qu'il y a une étude qui est sortie de Adobe il y a quelques temps, il y a quelques semaines, début du mois de septembre, qui ils ont fait une étude sur. Petite étude sur 1000 personnes, ils ont fait une étude et il semblerait que 35% des utilisateurs d'assistants vocaux, tout confondu, hein, Alexa, Siri et Google, leurs produits, donc 35% c'est énorme je trouve, pour de la musique. Ou, non c'est même pas, c'est deux tiers je crois, deux tiers des utilisateurs qui utiliseraient leur assistant pour écouter exclusivement de la musique. Je suis pas sûr qu'ils aient compris à quoi servait un assistant. Mais bon, bref, chacun ses trucs. Donc, par contre, il y a quand même un tiers qui utilise un peu plus les assistants. Et on avait fait un podcast d'ailleurs sur comment ce qu'on pouvait faire avec un assistant, je crois. J'ai un vague souvenir comme ça. Non ?
Oui.
Il me semble, je le rechercherai, je vous remettrai les liens dans l'émission. Et puis si on l'a pas fait, bon, on le fera parce que je me bats en ce moment pour expliquer que c'est génial un assistant parce que depuis que j'en ai un, deux, trois, c'est génial, je ne sais plus appuyer sur un interrupteur, je n'allume plus ma télé tout seul, je change plus de chaîne de télé tout seul. Bref, ça se démerde comme un grand, j'ai juste à lui dire, enfin c'est génial quoi, il manquerait plus qu'il sache m'amener ma bière pendant un match de foot, alors là ça sera encore mieux.
Ouais, et c'est vrai que tu parles de ça d'ailleurs, et on entend des comment dire, des retours assez comment dire, assez mitigés, on va dire, sur les assistants. En particulier, j'écoute beaucoup Patrick Béja, que vous connaissez probablement,
Ouais.
l'auteur du Rendez-vous Tech. Si vous écoutez les podcasts francophones sur la tech, je pense que c'est impossible de passer
On peut
sans
pas
écouter
passer à
Patrick
côté.
Béja. Et Patrick, justement, expliquait qu'il s'était équipé il n'y a pas très longtemps de Google Home, mais qu'il avait quand même du mal à en trouver l'utilité. Je pense que ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que s'il n'est pas intégré à d'autres outils que vous avez à la maison, donc par exemple, Nico, tu parles de la télé. Mais c'est pareil, ça peut être la musique, ça peut être comment ça s'appelle, vos lampes, vos ampoules connectées, etc., etc. Bah c'est peut-être un peu plus dur d'en voir l'utilité. Moi, je suis un peu dans la même situation que toi. J'ai donc un système qui s'appelle Wink, qui me permet de faire de la domotique, et avoir ça connecté à Google Home, ben c'est vrai que ça change la donne quoi. Il n'y a plus forcément besoin d'appuyer sur des boutons pour éteindre les lumières, ou il n'y a plus forcément besoin d'appuyer sur un bouton pour allumer ou éteindre la clim, ou allumer ou éteindre le chauffage. Donc c'est vrai que c'est un peu, il y a quand même une certaine courbe d'apprentissage, on va dire, mais ça dépend aussi de l'équipement que vous avez en fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de se ruiner dans les équipements. Parce que là, j'en essaye plein. J'ai essayé toutes les lampes connectées, les prises connectées. Je devrais faire des articles dessus, mais en fait, j'ai la flemme. Et j'ai essayé, je ne sais pas combien de constructeurs différents. Et je ne savais même pas qu'il y en avait autant. Et chaque fois que j'en trouve un nouveau sur Amazon, j'achète, en fait, une prise connectée par-ci, une ampoule par-là. Et c'est bluffant comme ça marche avec quasiment tout. Ben, tous ceux que j'ai achetés, j'ai bien acheté une vingtaine de produits différents. 20 constructeurs différents hein, pour le fun et ben ça marche du coup tout chez moi j'ai toutes mes ampoules ben je rentre dans une pièce ou même pas hein, je suis pas encore obligé de rentrer dans une pièce que je l'allume en marchant quoi j'ai plus cette côté tu sais le il fait jamais nuit où je vais c'est bizarre ben, c'est normal dès que j'arrive dans une pièce ça s'illumine
Ouais.
ouais enfin
Tu apportes la lumière, Nico.
c'est ça enfin c'est ma
Partout où tu
voix
vas.
surtout qui apporte la lumière, mais ça s'illumine. Mais pareil, j'ai plein d'interrupteurs connectés et je leur dis ben allume par exemple, je sais pas moi, ma cafetière. J'en ai déjà parlé, je crois, j'en reparle encore. J'ai une cafetière qui est pas du tout connectée à la base. Par contre, elle a un mode qui est assez intéressant. Quand on la rebranche la première fois, elle lance automatiquement la dernière programmation. Donc moi,
Ah,
ma
c'est
dernière
cool ça.
programmation, c'est un express bien tassé pour le matin pour me réveiller. Et ben j'ai mis une prise connectée dessus. Et quand je descends mes escaliers, parce que ma cuisine, j'ai une grande maison, j'ai un grand château, donc quand je suis au 8e que je descends au rez-de-chaussée pour aller dans ma cuisine, donc, et ben en fait, je lui dis, OK machin, lance-moi un café. Et en fait, ça allume ma cafetière, ça la remet au courant et ça lance la dernière programmation. Et du coup, la seule chose qu'il faut pas oublier, c'est de mettre une tasse le soir. C'est tout.
Non mais ouais,
C'est
c'est
génial.
ce genre de ce... Vas-y, vas-y.
Et je lui dis, donne-moi les nouvelles neuves du monde aujourd'hui. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il sait ce que j'aime, ce que je regarde, parce qu'il est hyper intrusif dans mes recherches Google. Il va me donner que l'actualité qui m'intéresse. Genre, savoir que notre ami président de la République vend des goodies à l'Élysée, sincèrement, j'en ai rien à carrer. Donc, ça, il m'en parle pas, par exemple. Et il parle de. Ben, Google qui vient de créer un nouveau, qui vient de vendre le Google Home Max, ben, ça y est, je le sais, il me le dit. Il va me donner la météo là où je vais parce qu'il a regardé mon planning. Je lui dis quelle est la météo en fonction de mon planning. Je lui dis voilà. Et puis il va me dire ben, il fait beau, il fait pas beau, mais couvre-toi, couvre-toi pas. Et puis je suis toujours en train de descendre mes escaliers. Hein. Imaginez, là j'ai le visage dans mon postérieur, hein, pour être poli. Mes chaussons un petit peu en vrac, mon peignoir sur le dos, bon, un petit peu le visage enfariné, je descends, je lui ai dit allume les lumières de l'escalier, ensuite allume les lumières de la cuisine et il le fait, ensuite je lui dis donne-moi les nouvelles du monde, ok il me le fait, ensuite je lui dis lance-moi un café et là j'arrive, tout est prêt quoi, j'ai entendu mes news, Et j'ai encore pas essayé, mais je vais lui demander de lire mes flux RSS. J'ai pas essayé, mais je pense que ça doit être possible facilement. Parce que ça pourrait encore être encore mieux pour moi, parce que c'est l'une des premières choses que je fais, c'est lire mon flux RSS.
D'accord.
Donc, tu vois, et j'ouvre. Alors là, je l'ai pas, mais je vais m'équiper de système domotique pour mes volets roulants.
Ah, d'accord.
Donc du coup, je vais pouvoir même lui dire, ouvre-moi mes volets.
Ouais.
Volets de la chambre, volets du garage, volets de machin, enfin, tu vois. Et donc ça, c'est incessamment sous peu. Là, je suis en train de réfléchir à comment faire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les ouvrir à la voix. C'est le comble du feignant, certes, mais en fait, j'ai fait beaucoup plus de choses qu'avant. Je donne un exemple. Ce matin, on me dit, on va se balader avec le fiston, tout ça. Et là, on me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Alors, je suis en train d'habiller, je suis en train de lui mettre les chaussettes, machin. C'est compliqué d'habiller un enfant de cet âge-là. Hein. Et, donc, t'as pas tes mains libres pour aller sur Google et puis faire météo ou pas. Et ben là, je lui ai dit juste, bah, donne-moi la météo de tel endroit. Tu vois? Et là, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas que des chaussettes qu'il faut que je lui mette. Enfin, faut pas lui en mettre, parce qu'il fait 27 degrés. Donc, non, on va pas lui mettre ça. Tu vois, ça paraît bête ça, comme usage,
Ouais.
mais c'est pas. Enfin, ça m'a permis de faire deux choses à la fois, dont une où j'avais pas besoin de me concentrer. Je suis pas obligé d'aller ouvrir un ordinateur ou un téléphone pour aller chercher la météo. Je lui demande, il me le dit, basta, quoi.
Ouais.
Enfin,
Non,
voilà. C'est mon
mais
usage perso.
c'est clair qu'il y a, ouais, faudrait qu'on fasse le tour de nos usages encore une fois. On avait fait ça il y a quelques mois. Vous pourrez probablement trouver l'épisode spécial assistant. Mais je pense que ça vaudrait le coup de refaire un épisode. Encore une fois, bah oui, ce que tu décris, c'est ça impose d'avoir un certain nombre d'ampoules connectées, de prises connectées. Mais c'est pas forcément, enfin, ça devient, les prix deviennent de plus en plus abordables finalement. Donc
Bah,
c'est vrai que.
la dernière que j'ai achetée, elle m'a coûté 9,99 €. Alors, c'est qu'une ampoule, mais c'est une ampoule LED déjà, donc faible consommation. Bon, après, tu as le Wi-Fi qui vient se balader là-dessus et elle marche très très bien, quoi. Et en plus, je l'ai mis dans la chambre de mon fils. Elle a une routine comment dire, de lumière. Donc, en fait, quand je vais le coucher, je lui lis un livre, machin. Donc, comme tout bon parent doit faire, a priori, on m'a dit. Je lui lis un livre et en fait, quand j'arrive, je vais lui dire, active la routine nuit ou dodo, je l'appelais dodo pour qu'il puisse le dire lui aussi. Et en fait, la lumière commence à s'atténuer progressivement et en 10 minutes, en fait, la lumière s'éteint, mais progressivement, tout doucement,
Ah, d'accord.
dans son sommeil. Et ça, bah, en fait, je rentre dedans. Alors tu me dis, bah, t'as un variateur, t'as qu'à le faire toi-même. Ouais, mais là, je l'ai programmé. Ouais, mais bon, je vais me lever, tout ça. Là, je l'ai programmé. Quand je rentre dans la pièce, je
Tu
lui
passes 10
dis.
minutes à côté du variateur pour faire tout
Voilà, mais
doucement
c'est nul,
décroître.
quoi. Enfin, et là, cette ampoule, elle m'a coûté 10 balles, quoi.
Ouais. Non,
10
mais
euros
bon.
frais de port compris. Et elle vient de Chine, certes. Je suis désolé parce que c'est pas ma faute. Mais elle marche super bien. Et cette routine-là, bah, je l'ai intégrée à mon Google Home. Et ça marche super bien. Enfin, c'est tout bête, mais ça marche bien. Et du coup, mon fils déteste Google Home. Je raconte une anecdote, on a encore 1 heure, tu m'as dit. Hein. Parce qu'en fait, ma télé l'éteint aussi avec Google. Donc, je la coupe. Et en fait, du coup, s'il est en train de faire une bêtise et que il y avait un dessin animé qui était allumé, ce qui est assez rare, mais quand c'est y est, bah, en fait, je dis simplement, OK, Google, éteins la télé, quoi. Et maintenant, il fait, non, pas Google, pas Google. Ça me fait rire.
Parce que c'est associé avec l'idée d'éteindre la télé.
Voilà, c'est ça. Pas
Ouais.
Google, pas Google. Bah, ça m'a fait rire. Bref, petite anecdote de vie. Comme quoi, Google a un pouvoir énorme.
Ouais, non, c'est clair. Et donc ouais, tu parlais de petite parenthèse, tu parlais de des ampoules connectées, des appareils ampoules connectées, que ce soit ampoules et prises électriques. Donc il y a une nouvelle prise électrique qui arrive avec un nouvel acteur qui est
Qui
IKEA.
est IKEA.
IKEA, ouais. Donc IKEA avait sorti un hub, il me semble, et des ampoules connectées du nom de Trottfri, qui doit vouloir dire quelque chose
Ah,
en
bah, je voulais
suédois,
que tu le
mais.
dises parce que vu que tu es spécialiste des langues chez nous.
Trottfri, voilà. Donc je sais pas ce que ça veut dire en suédois, faudra.
Tradfri.
Ah, c'est Tradfri,
Tradfri.
Tradfri, ok.
Tradfri, c'est un A. Ouais.
Mais c'est pas un A avec
Donc.
un. Ouais, bref, on fera un épisode linguistique un autre jour. Mais du coup, ouais. Donc là, a priori, une prise électrique. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Le prix, la
Le prix 10
disponibilité.
balles, hein.
Ouais.
Alors pas encore. Alors quand j'ai mis, c'était pas encore en vente, mais ça allait, je crois que c'est pour septembre, octobre, je crois, en vente dans les magasins IKEA.
D'accord.
Il fonctionnerait. Donc, alors, la difficulté avec les prises connectées, enfin, la difficulté, c'est qu'ils ont besoin d'une passerelle. Donc,
D'accord.
en fait, tu branches pas directement la prise à ton Wi-Fi, elle est branchée à une passerelle. Voilà, un peu l'équivalent de ce que tu as, toi, chez toi, c'est ça? Tu me
Ouais.
disais que tu as un espèce de hub qui
Ouais.
réunit tout ça et ensuite connecté à ton réseau.
Ouais. Exactement.
Y a ça aussi, et tu connectes ton un truc qui s'appelle, je sais même pas, j'ai pas vu le nom, je me souviens plus. Bon, c'est une passerelle qui va être connectée à votre réseau et puis qui, a priori, serait compatible avec Google, enfin avec tous les assistants personnels. Donc, ça sera Alexa, Siri et Google. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, a priori, tu en auras deux modèles différents, un 10 € contrôlable à distance et un auquel tu pourras l'accompagner d'une télécommande, en fait, si tu le souhaites. Donc, c'est 10 ou 15 € avec ou sans télécommande.
D'accord. Ok.
Voilà, au cas où, ça peut être intéressant aussi d'avoir une télécommande pour la perdre avec les autres télécoms.
Ouais.
Mais intéressant, je trouve ça bien. Si un acteur comme IKEA se lance sur ce marché-là, ça veut dire que ça devrait être porteur comme marché, parce que je ne vois pas l'intérêt d'un fabricant de meubles, autant, même s'il a parfois du génie, de se lancer là-dedans s'il pense qu'il ne peut pas gagner d'argent, quoi.
Ouais, et puis bah oui, c'est qu'ils se disent que bah c'est l'avenir quoi. Quand on est spécialiste de l'ameublement à la maison, finalement se dire qu'il faut investir dans la domotique, c'est préparer un petit peu l'avenir. Donc non, c'est clair que moi je vois bien Amazon devenir un acteur proéminent du secteur de la domotique dans les années à venir. Donc avec ce genre de solutions qui sont des solutions abordables, hein, puisqu'on parle de quelques dizaines d'euros à chaque fois. Il y avait un temps pas si lointain où avoir une maison de domotique, enfin installer de la domotique à la maison, ça demandait des investissements de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, on peut démarrer avec 200, avec 100 ou un budget de 100 ou 200 euros, on peut démarrer et avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc c'est clair que Amazon se jette sur ce secteur-là, c'est intéressant à suivre. Donc voilà. Et puis, je me rends compte que tu vois, on dit qu'on avait du temps, là on est déjà à 1h20, donc
C'est parfait.
il va être temps de
On a fait comme
conclure.
d'habitude. C'est
Voilà.
génial.
Ouais, on aurait pu vous parler d'assistant qui devient multilingue. Alors, je sais pas si tu as testé un petit peu pour la faire rapidement. J'ai testé, je commence à parler en français à Google Home après avoir parlé. Moi, tout était configuré en anglais, donc j'essaye en français. Pour être très honnête, alors je sais pas si c'est que c'est des débuts et que ça marche pas très bien pour l'instant. Clairement, ça marche pas aussi bien qu'en anglais, voire, bah en fait, en gros, à chaque fois, il me dit, vous me posez une colle, ou à chaque fois, il me répond, je ne comprends pas très bien ce que vous avez dit. Donc,
C'est peut-être ton accent pourri.
alors, c'est possible, c'est une option, mais clairement,
Anglais, plus français.
ouais, mais clairement, c'est un peu, c'est pas hyper satisfaisant en ce qui me concerne. Je sais pas si t'as testé, toi, de ton côté.
Non, je ne l'ai pas testé en anglais, je l'ai testé uniquement en français. En français, il est parfait. Hein. Moi, je n'ai rien à dire. Il comprend quasiment tout le temps, si ce n'est tout le temps. Après, je n'ai pas testé une autre langue, mais je vais le tester.
Ouais,
En
c'est
même temps,
parce que.
vu la qualité de mon anglais, je pense qu'il va me dire souvent, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Hein. Mais il parle 6 langues de plus, donc
Ouais.
il parle 2 langues, 3 langues que tu maîtrises, l'anglais, le français et l'allemand.
L'allemand, ouais. Et le suédois, bientôt aussi.
Suédois, ouais, hein, c'est bon. L'italien et le japonais
Ouais.
maintenant. Ça va être sympa, hein. Et ce qui ouais, est-ce qu'il fait toi, parce que moi, mon amie, elle aime pas ça pour l'instant. Elle y trouve de plus en plus d'intérêt, mais c'est encore distant. Donc, le temps de la formater à ça, elle va aimer. Donc, du coup, on n'a pas 2 langues. Enfin, on n'est pas deux à l'utiliser, si tu veux. C'est
D'accord.
quasiment exclusivement moi. Et toi, il fait la différence entre ton ami et toi à la maison quand vous
Absolument.
l'utilisez.
Ouais, clairement. Et puis quand tu, enfin, tu vois, tu peux configurer différents utilisateurs, ce qui est un gros avantage par rapport au HomePod. Donc, on en avait parlé la dernière fois, mais le HomePod, en gros, il considère à chaque fois qu'il parle au propriétaire du HomePod. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui veut lire vos SMS, ben, en gros, il a juste à demander à lire les SMS et il lit les
D'accord.
SMS de votre téléphone. La grosse différence avec Google Home, c'est qu'il gère vraiment très très bien deux utilisateurs. Et en gros, bah oui, quand c'est moi qui demande mon agenda, on me donne mon agenda à moi. Et quand ma copine demande son agenda, et ben, elle a son agenda à elle. Et pareil pour les configurations de, je sais pas, quand on veut configurer son compte Spotify par exemple, c'est ma playlist à moi quand je demande à jouer ma playlist, et quand elle demande ses playlists, c'est ses playlists à elle. Donc ouais, donc ça marche bien.
Bah, c'est parfait. Alors du coup, on suivra ça de près pour le Google Home Max. Je veux voir si je peux pas m'en faire offrir un par la Fnac ou Darty s'il nous écoute. Hein. Je
Voilà.
vais le tester. Puis,
Monsieur Fnac
si
Darty, si vous
Monsieur Fnac
entendez.
Darty, voilà. Je suis preneur et on vous fera un peu de pub. On dira que c'est bien ou pas. Ça dépend si c'est bien. On a
Voilà.
fait le tour rapidement, on aurait pu parler plein plein de choses. Hein. Clairement, on avait l'envie de vous parler de nouvelles fonctionnalités qui arrivaient sur Chromebook, mais l'IFA était arrivé à un événement hyper intéressant. On était obligé de vous en parler un petit peu beaucoup, 1h30 pour faire simple. Je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour.
On a fait le tour. Eh bien, on va vous laisser tranquille, retourner à vos occupations classiques et moroses. Écoutez les autres podcasts. On a cité Patrick Béja avec le Rendez-vous Tech. On a cité les deux Guillaume avec Tech Café et la chronique des composants. On pourra en citer plein d'autres qui nous suivent. On les salue tous très bien, hein, très fort. Et on espère un jour venir faire un petit tour du côté de vos podcasts. Et puis peut-être qu'un jour, vous viendrez faire un tour du côté d'une autre. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas Tipeee pour nous aider à avancer un petit peu. Sachez que c'est grâce à ça qu'on arrive à subventionner l'hébergement de notre podcast. Et puis, parlez-nous sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter. D'ailleurs, on te retrouve toujours sur Twitter. Ah non, sur Telegram. C'est vrai que l'autre fois, je t'ai vu parler une fois.
J'ai parlé une fois, ouais. J'ai parlé une fois. Je vais
voilà,
essayer de parler
bravo,
deux
hein,
fois
la
dans les
prochaine
semaines à
fois.
venir. Voilà.
Donc, vous nous retrouvez sur le channel Telegram. Si vous voulez poser des questions, sur tout et n'importe quoi, on y répondra. Si on sait, si on ne sait pas, on y répondra aussi. Et puis, sur Twitter, moi, je vous laisserai trouver, vous me retrouvez facilement. Thomas, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une soirée si vous nous écoutez en fin de journée. Allez, salut tout le monde. Bye bye.
Voilà, ouais. Et puis moi, donc c'est @lethargicpanda sur Twitter. Et puis sur Telegram, je vais essayer de parler un peu plus souvent. Allez, à la prochaine. Ciao.